7h30, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On retrouve sur Europe 1 le journal de la mi-journée avec Sébastien Guyot. Bonjour Sébastien.
Bonjour Fatima, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée. À la une de ce journal, la sécheresse qui inquiète alors qu'un nouvel épisode de canicule se profile. Restrictions d'eau dans 73 départements. L'hommage aux Justes de France, des cérémonies un peu partout dans le pays en mémoire des 13 000 juifs victimes de la rafle du Veldiv en juillet 42. Vous entendrez l'émotion ce matin de la ministre des Armées, Florence Parly. Et puis le Tour de France, 4 cols, 4700 mètres de dénivelé dans les Pyrénées. Julian Alaphilippe a bien l'intention de défendre son maillot jaune.
Europe 1.
Quand sécheresse rime avec détresse, celle des agriculteurs. 73 départements ont imposé des mesures de restriction d'eau en France. 26 sont en situation de crise. Aussitôt dans la saison et dans autant de départements, c'est assez rare. Météo France considère d'ailleurs que c'est la 7e sécheresse la plus grave depuis 1958. Et Yasmina Katou, l'épisode de canicule qui se profile pour ce début de semaine ne va rien arranger.
Oui, des pointes à 42 degrés sont attendues cette semaine dans le sud-ouest et le centre-est. À Brignoles, dans le Var, par exemple, il fait en ce moment 35 degrés. Sur les trois quarts du département, pas une goutte de pluie n'est tombée ce mois-ci. La végétation a séché, la terre est devenue poussière. La moindre étincelle attisée par le vent aurait des conséquences dramatiques. Colonel Éric Groin, directeur des services incendie et de secours dans le Var.
Vous avez des cocktails température, vent, qui fait que nous sommes en stress hydrique et donc nous sommes bien évidemment en risque. La variable d'ajustement étant le vent, qui ne nous est pas annoncé aujourd'hui, mais il suffit de très peu de vent aujourd'hui pour pouvoir faire des incendies assez importants.
Des incendies notamment provoqués accidentellement par des comportements dangereux, comme jeter son mégot de cigarette par la fenêtre. Le colonel Groin rappelle les attitudes à éviter.
Pas de barbecue proche des forêts, pas de cigarettes jetées par la fenêtre. Il ne faut pas débroussailler quand nous sommes en risque, bien évidemment, et respecter les arrêtés préfectoraux pour la pénétration dans les massifs. C'est pour une sécurité et il ne faut donc pas aller dans ces massifs, c'est important.
Ce deuxième épisode de forte chaleur devrait durer entre 3 et 5 jours.
Merci Yasmina Katou et on y reviendra avec Laurent Cabrol, bien sûr. Au Portugal, ce sont plus d'un millier de pompiers qui sont mobilisés pour tenter de venir à bout d'un incendie qui fait rage depuis hier dans une région montagneuse du centre du pays, celle-là même où une centaine de personnes avaient péri en 2017. Et puis aux États-Unis, la canicule a déjà fait 3 morts dans le Maryland, près de Washington, où les températures ressenties atteignent 45 degrés. Le réchauffement climatique, l'environnement ne sont pas des priorités du gouvernement. C'est en tout cas ce que dénonçait ce matin sur Europe 1 l'eurodéputée écologiste Karima Delli. Pour elle, l'affaire de Rugy en est l'illustration.
Ce qu'il faut te retenir par cette affaire, c'est que la grande perdante, c'est encore l'écologie, malheureusement. Cette ministre, en 7 ans, c'est beaucoup trop, alors que l'urgence nous amène à voir justement un numéro 2 du gouvernement qui dise « Allez, on y va, on fait une politique transversale, avec des mesures très concrètes ». J'ai beaucoup de respect pour Elisabeth Borne, c'est une femme de dossier, c'est une femme qui travaille, mais malheureusement, est-ce qu'elle aura le poids politique nécessaire dans un ministère qui devrait être stratégique et qui ne l'est plus ? Ce n'est plus un numéro 2. Ce n'est plus une ministre d'État aujourd'hui. J'entends encore cette phrase d'Edouard Philippe lors de la déclaration générale de l'acte 2 du gouvernement qui disait « Personne n'a le monopole de l'écologie, mais ce gouvernement, depuis 2 ans, il a bien le monopole de l'inaction politique. »
Karima Delli, députée européenne écologiste avec François Geffrier ce matin sur Europe 1. L'hommage aux Justes de France aujourd'hui. De nombreuses cérémonies organisées en mémoire des 13 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants victimes de la rafle du Veldiv. C'était il y a 77 ans. À Paris, quai de Grenelle, la ministre des Armées, Florence Parly, a pris la parole il y a quelques minutes, visiblement très émue.
Je le redis ici, la rafle du Veldiv est l'unique œuvre du gouvernement français accomplie par des Français. N'oublions aucune femme, aucun homme, aucun enfant livré à la plus grande entreprise de destruction humaine, livré aux ennemis de l'humanité. Leur nom ne doit jamais sombrer dans l'oubli. N'oublions jamais que la France a trahi ses propres enfants, ses enfants aimants, pétris des valeurs qu'il avait fait naître. La rafle du Veldiv est une blessure à l'âme de la France. Une plaie vive dont on ne guérit pas et dont il ne faut pas guérir.
Florence Parly, la ministre des Armées, au micro de Justin Morin. Ce 20 juillet marque également le début d'un des plus importants, 21 juillet même, des plus importants congrès consacrés à la recherche contre le sida. Il rassemble des experts du monde entier au Mexique. Et c'est un traitement préventif qui va être mis en avant, la PrEP. Les résultats sont très prometteurs, Mélanie Gomez.
Pour la majorité des autorités sanitaires mondiales, désormais c'est clair, le traitement préventif contre le VIH, la PrEP, doit faire partie des outils de prévention du sida, au même titre que le préservatif. Ce traitement, qu'on peut prendre en continu, un comprimé tous les jours, ou à la demande, un comprimé juste avant et après un rapport sexuel à risque, est très efficace. Il protège quasi à 100% d'une contamination par le VIH, et dans certains pays qui ont bien déployé son utilisation dans des populations à risque, les résultats sont très prometteurs, selon le professeur Jean-Michel Molina, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
L'Australie, par exemple, vient de présenter ces données qui montrent pour la première fois une diminution du nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH. Ils n'avaient pas vu ça depuis 18 ans. Cette diminution, elle est de l'ordre de 30% chez les homosexuels masculins, qui est finalement, même en Australie pour l'instant, la population qui utilise principalement la PrEP, qui montre bien que c'est cette utilisation de la PrEP qui conduit à avoir peut-être enfin un début de contrôle sur cette épidémie.
Seul bémol pour les experts, le fait de prendre ce traitement ne doit pas dispenser du préservatif. Il faut le rappeler aux patients, car si grâce à ces comprimés, on peut éviter le VIH, ce n'est pas le cas pour les autres infections sexuellement transmissibles comme la syphilis, en très forte augmentation ces dernières années.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Dans un instant, la suite du journal. 7 mois après avoir perdu l'Aquarius, SOS Méditerranée repart en mer pour sauver des migrants avec un tout nouveau bateau.
Il est midi 38, la suite de votre journal de la mi-journée, Sébastien Guyot.
Les ports européens refusent d'accueillir les bateaux humanitaires, peu importe. SOS Méditerranée repart en mer, 7 mois après l'Aquarius, avec un nouveau bateau battant pavillon norvégien, cette fois un navire très efficace, à en croire son directeur des opérations, Frédéric Penard.
L'Ocean Viking, c'est un navire avec un pont arrière très plat qu'on a pu aménager, qui nous permettent d'avoir un hôpital à bord, des endroits pour héberger les personnes. C'est un navire qui va un peu plus vite que n'allait l'Aquarius, qui nous permet d'avoir 4 canots de sauvetage déployables en simultané, qui nous permet de regarder depuis la passerelle à 360 degrés. Donc, c'est un outil particulièrement performant pour pouvoir mener des opérations de sauvetage dans cette mer méditerranée centrale où on sait qu'il y a peu de coordination. Le navire est en route aujourd'hui, les équipes sont à bord et le navire est prêt à mener ses opérations de sauvetage. Depuis toujours, les marins ont secouru les gens en mer. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas fait. C'est la société civile qui le fait. Et pour nous, à SOS Méditerranée, c'était absolument inimaginable de ne pas retourner en mer.
Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS Méditerranée. Et puis ça y est, à cette heure-là, il y a 50 ans, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins étaient sur le chemin du retour vers la Terre après les premiers pas de l'homme sur la Lune. Mais au fait, quelle était l'odeur de la Lune? Réponse avec David Marchand, chercheur au CNRS.
Neil Armstrong et Buzz Aldrin rentraient dans le vaisseau qui devait les ramener sur Terre avec des échantillons de Lune. Et quand ils ont enlevé leur combinaison et qu'ils ont pu sentir ces échantillons, ils se sont rendus compte que la Lune avait une odeur particulière que nul n'avait jamais senti. Quand ils ont enlevé leur scaphandre, là il y avait donc ces sacs de poussière lunaire, ils avaient de la poussière partout sur eux et donc il y avait une odeur très forte autour d'eux. Une odeur qu'ils n'ont pas réussi à décrire. Alors certains ont parlé de cendre dans la cheminée, d'autres d'une odeur de noisette. En tout cas, ça leur a fait une très forte impression, cette odeur inimaginable. C'est un de leurs souvenirs les plus forts de l'exploration lunaire.
Et voilà, et cette anecdote sur l'odeur de la Lune, vous la retrouvez dans un livre écrit par David Marchand, chercheur au CNRS. Un livre pour enfants à partir de 8 ans, ça s'appelle Mission Lune. On prend à présent la route du Tour.
Europe 1. Le Tour de France avec De Koninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dekoninck.fr.
Bonjour Thomas Veuclair.
Bonjour tout le monde.
On a vécu une journée de rêve hier dans les Pyrénées avec la victoire de Thibaut Pinot au Tourmalet et Julien Alaphilippe qui a conforté son maillot jaune. Aujourd'hui, on reste dans les Pyrénées, 185 km entre Limoux et Foix-Prat-d'Albis. C'est peut-être l'étape reine de ce tour, en tout cas des Pyrénées.
On verra. L'étape reine, souvent sur le papier, c'est difficile. C'est le déroulement qui fait que Je crois que quand même, hier c'était une étape magnifique. On a eu des défaillances, on a eu des coureurs qui ont été formidables dans le final, pas seulement les Français. Il y a eu un gros travail collectif, notamment d'autres équipes. Je crois que honnêtement, la grosse étape qui restera dans les mémoires au niveau des étapes pyrénéennes, c'est celle de hier. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est pas parce qu'il y a des noms moins ronflants que le Tourmalet ou autre.
Non, mais je disais ça parce qu'il y a 4 cols et 4700 mètres de dénivelé au total quand même.
Oui, oui, c'est clair, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'après une étape comme hier, où les favoris, voilà, il y en a quand même qui ont montré quelques limites, je crois qu'ils vont, ils vont être un petit peu sur la défensive. Mais je le répète, on ne peut pas trop savoir le scénario. Il y a une possibilité d'une échappée avec des coureurs très talentueux, mais qui sont un peu loin en général. Mais c'est vrai que c'est quand même une grosse étape. Il n'y a pas un mètre de plat, je pense. Allez, en tout cas, pas beaucoup.
Et parmi les difficultés du jour, il y a le terrible mur de Peguère.
Oui, c'est assez méconnu. Moi, je l'ai escaladé à plusieurs reprises et vous avez employé le qualificatif qui convient, terrible. C'est vraiment, ouais, c'est pas de la tarte. Et puis, c'est surtout un changement de rythme radical parce qu'il y a des pourcentages qui sont hyper accentués.
Bon, alors vous, qui êtes assez visionnaire, Thomas Voeckler, qui vous voyez gagner? Est-ce qu'après Pinot hier et puis Alaphilippe en jaune, on peut voir un Warren Barguil qui s'était imposé un 14 juillet à Foix après un grand numéro?
Ouais, l'avantage de Warren, il a montré hier qu'il avait des très bonnes jambes et l'avantage, c'est qu'il n'est pas un danger au classement général. Donc certes, on ne laisserait peut-être pas aller dans une échappée qui va prendre 10 minutes, mais en fin de course, s'il attaque comme il a fait hier, peut-être un peu moins loin du sommet, oui, il peut bénéficier d'une marge de manœuvre que n'auront pas que ce soit Thibaut ou Julien Alaphilippe, bien entendu, mais c'est notre souhait à tous. Mais c'est vrai qu'on retrouve le champion de France, Warren Barguil, avec de très bonnes conditions.
En un mot, Alaphilippe, il sera toujours en jaune ce soir?
Avec ce qu'il a démontré hier, sauf s'il a une panne de cuisse, sans aucun doute.
Bon, merci Thomas Voeckler et on va suivre bien sûr cette étape toute la journée avec vous, Axel May et Marguerite Lefebvre, toutes les demi-heures sur Europe 1. Et puis merci à Christophe Justiniani pour avoir assuré ce duplex. La météo, Laurent Cabrol, on en parlait au début de ce journal, la canicule arrive.
Chaud, très chaud Sébastien, vous avez raison, si je devais faire un mauvais jeu de mots, je dis que ce sera gratiné, parce que nous allons avoir des jours extrêmement pénibles à vivre, à moins que vous ne soyez en bord de mer. Alors pour demain, eh bien, à part quelques brumes au petit matin sur la Bretagne et sur le Cotentin, ce sera un ciel dégagé et il restera toute la journée. Il est plus simple d'aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire aux températures, sous abri. Il pourrait y avoir 38-39 à Cahors, 38-39 à Nîmes, Agen, Albi, 37 à Toulouse, à Bordeaux, 36 degrés à Angoulême et à Périgueux, 35 à Bourges, Biarritz, Niort, Poitiers, Limoges, 34 à Clermont-Ferrand, Lyon, Châteauroux et Grenoble, 33 à Paris, à Dijon et à Nantes, 32 à Besançon, Montpellier, Marseille et Bourg-en-Bresse, et puis plus respirable, 30 à Vannes, 29 à Lille, 26 à Caen, 24 à Dunkerque et 21 degrés à Boulogne-sur-Mer. Voilà.
Merci Laurent Cabrol et on fera un point aussi sur la météo des plages avec vous ce soir dans les prochaines éditions.
Merci Sébastien, restez avec nous, bon dimanche à l'écoute d'Europe 1. Dans quelques instants, Philippe Legrand et le 12-45.